Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient avec Sébastien de Courtois, nous allons évoquer la prière maronite en compagnie d'Antoine Fleffel, philosophe et théologien. Vous êtes venu nous présenter un livre, votre livre le plus personnel, dites-vous, un ouvrage qui représente une halte spirituelle dans notre époque troublée, crise humanitaire et politique pour votre pays, le Liban, après l'explosion dramatique du 4 août dernier. Un livre qui apporte un éclairage liturgique pour une problématique plus large qui est celle des chrétiens d'Orient. Antoine, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Alors vous êtes un amoureux de cette liturgie maronite, une communauté chrétienne du Liban à laquelle vous appartenez, peuple monastique entré dans sa terre. Vous êtes le Liban d'une certaine manière avec toutes ses subtilités et ses richesses et surtout sa tradition. Alors l'ouvrage dont nous allons parler va sortir aux éditions Salvator dans quelques jours, que je recommande. Vous vous êtes lancé dans la traduction de 50 prières maronites, commentées, dites-vous dans votre introduction, avec un grand enthousiasme. De quoi s'agit-il ?
Ce projet, j'en ai eu l'idée il y a un an et demi. J'étais en train de faire une petite recherche sur Internet, car j'avais une conférence à donner sur les Pères de l'Église, et je découvre un livre aux éditions Salvator, « Prier avec les Pères de l'Église ». Je me suis dit, moi qui aime tant la liturgie, et qui ai tellement oublié la liturgie ces dernières années, puisque je suis bien affairé dans mes recherches philosophiques, théologiques et géopolitiques, pourquoi ne pas faire une petite pause et mettre en valeur la richesse de ces prières maronites ? Au début, je croyais le projet simple, je me suis dit je choisis quelques prières et je les traduis, et j'ai découvert par la suite que les choses étaient beaucoup plus compliquées, car même les prières les plus simples et élémentaires que tous les maronites prient tous les jours, on n'en connaît pas l'origine, on n'en connaît pas le rédacteur, on n'en connaît pas les circonstances. Ce livre m'a permis de me plonger dans cette histoire liturgique de l'Église maronite et j'ai découvert qu'à travers ce plongeon, je découvrais un autre aspect de l'histoire maronite, de l'anthropologie maronite, de la culture maronite, de tout ce que les maronites ont vécu dans leur histoire et qui est exprimé par ce réceptacle que sont leurs prières liturgiques. Et ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je quittais mon poste à l'Université catholique de Lille pour me concentrer sur la création de l'Institut chrétien d'Orient, dont nous parlerons tout à l'heure. Ça a été très bénéfique à un niveau personnel, mais je suis sûr que beaucoup de personnes prendront un grand plaisir à lire cet ouvrage, car il n'est pas seulement utile pour ceux qui veulent s'informer sur la liturgie maronite, mais même aussi pour les maronites eux-mêmes, car il leur apprend des choses qu'ils ne connaissent pas sur leur histoire, et moi j'étais le premier à ne pas les connaître.
Alors ce sont des prières que vous avez traduites à partir des originaux ?
Tout à fait, à partir des originaux syriaques
et arabes.
Et arabes, tout à fait. J'ai une belle collection d'anciens ouvrages et de quelques manuscrits. Certains étaient dans ma famille, d'autres m'avaient été offerts. Donc j'ai pu me plonger dans ces livres du 16e, 17e, 18e ou 19e siècle, et même le 20e, comparer les différentes versions, par exemple, de la messe, et parfois choisir une version ancienne plutôt que la nouvelle, pour montrer effectivement les points d'étape de l'évolution de cette liturgie.
Alors Antoine Fleffel, dites-nous quelques mots quand même sur l'histoire de cette liturgie maronite.
Ses origines les plus anciennes, nous les trouvons à Édesse, dans cette ville qui est quand même un point d'ancrage majeur pour le monde syriaque. Sur ce plan, la liturgie maronite a beaucoup de ressemblances avec la liturgie de l'Église de l'Orient, dite jadis nestorienne ou dite assyrienne actuellement. Néanmoins, dans son développement, cette liturgie maronite s'est aussi influencée par la liturgie syriaque, d'une manière plus globale, où nous trouvons tous les traits antiochiens, les traits de ce contexte oriental plus large, sémitique. Ensuite, elle s'est développée et à partir du XIIe siècle, elle a eu un cachet qui lui est propre. Elle s'est constituée en liturgie originale. Certes, des influences syriaques étaient là. De toute façon, la liturgie maronite est une liturgie syriaque, mais qui a sa propre particularité. Autre point d'étape, au XVe, XVIe siècle, cette liturgie a commencé à être latinisée. Un chemin qui a duré plusieurs siècles, jusqu'au Concile Vatican II, qui a invité les églises orientales, dont l'église maronite, à se réformer. Mais disons que cette liturgie est l'expression de l'histoire maronite. On y voit les traces des différentes évolutions. Certains voient cela d'un mauvais œil en disant « la pureté a été compromise, il y a des éléments étrangers, il faut s'en débarrasser ». Absolument pas. C'est l'histoire. Ainsi, toute cette question est d'une grande richesse. Ensuite, il faut distinguer peut-être trois grands volets, d'une manière sommaire, dans la prière maronite. Il y a le volet le plus archaïque, qui est très biblique. Nous constatons dans les prières les plus anciennes et les plus fondamentales que cette liturgie s'est constituée autour des textes évangéliques, autour des psaumes, autour des textes vétéraux néo-testamentaires. Un deuxième point qui n'est pas moins important, c'est celui de la tradition. Nous trouvons dans la liturgie maronite des textes de saint Éphrem, des textes de saint Jacques de Sarrougue, qui est pourtant...
c'est la grande tradition syriaque.
C'est la grande tradition syriaque, donc elle participe à cette grande tradition syriaque, cette liturgie, avec des textes magnifiques. Et enfin, nous trouvons une troisième catégorie de textes, moins traditionnels, plus personnels. Nous y percevons l'influence de l'Occident. Un exemple très marquant sur ce plan. Une prière ancienne va parler de la Trinité, de la rédemption. Si elle évoque la Vierge Marie, jamais sans le Christ, jamais sans l'histoire du salut. Alors que si nous touchons aux prières du 19e et du 20e, pas toutes, mais une partie, à ce moment-là, on trouve des prières adressées exclusivement à Marie qui est seule, des prières qui sont beaucoup centrées sur l'affect, sur la repentance personnelle. La repentance est très présente dans les prières traditionnelles, mais c'est un acte collectif, parce qu'on conçoit difficilement l'individu en dehors de la knouchto. De l'assemblée, knouchto terme syriaque, qui veut dire communauté, qui veut dire église aussi. Alors que dans les prières plus modernes, on voit bien que les pensées occidentales sur la personne, sur l'émancipation, sont passées par là. Donc c'est une autre manière aussi de l'exprimer. C'est une richesse qui est multiple.
Antoine Fleflen, nous parlions tout à l'heure de peuple monastique, cette idée de montagne, cette idée de refuge, donc de transmission. Est-ce que vous avez retrouvé dans la traduction de ces 50 prières ces siècles d'histoire que vous évoquez?
Absolument. L'histoire de l'église maronite et son évolution a fait que ce peuple a été un peuple monastique, car se réfugiant dans les montagnes du Liban, il s'est centré autour des monastères et a vécu au rythme des moines. Il était encerclé de partout, il y avait d'un côté la mer et de l'autre côté les différents empires musulmans qui vivaient avec les maronites une situation de grande tension et parfois de persécution, souvent de persécution. Ce qui a constitué à l'église maronite, cette identité et personnalité monastique. Tout le peuple devenait un peuple monastique. La tradition raconte comment les paysans se levaient le matin tôt, priaient les laudes, la prière du matin avec les moines, allaient dans leur champ, puis revenaient à midi pour la prière de la sexte, puis terminaient leur jour avec les vêpres. Donc c'est un rythme. Et cette identité monastique, elle est perceptible dans les chants. Elle est perceptible dans les textes, des textes dénués, qui ressemblent beaucoup à ce qui se trouve dans les monastères. Elle est perceptible dans la mélodie. Les mélodies maronites sont des mélodies très simples, traditionnelles. Alors certes, au XXe siècle, on a développé, au XIXe, on a été influencé par des mélodies latines, et peut-être même au XVIIIe. Néanmoins, les mélodies sont très simples. Elles rappellent le dénuement monastique, elles rappellent la simplicité monastique. Et c'est ce qui lui donne aussi un caractère propre, un cachet propre, et c'est ce qui révèle son histoire.
Seigneur, je te demande de me rendre digne de m'approcher sans tache ni souillure de ton saint autel. car je suis un serviteur pécheur qui a commis les péchés et les laideurs devant toi, et je ne suis pas digne de m'approcher de ton saint autel, ni de tes mystères sacrés. Mais je te supplie et j'implore ta générosité, ô clément, ô miséricordieux, ô philanthrope, jette sur moi un regard de miséricorde et de satisfaction, et souffre que je sois admis en ta présence en ce moment et en tout temps. Alors c'est une prière, la première qui ouvre ce recueil. Seigneur, je te demande de me rendre digne.
Oui, c'est une prière que le prêtre prononce en s'adressant à l'autel. Dans la nouvelle liturgie, il la prononce malheureusement à voix basse, la communauté ne l'entend pas, mais pendant 3 ou 4 siècles, cette prière a été prononcée solennellement par le prêtre. Elle est propre au prêtre, mais les croyants l'affectionnaient beaucoup. Et cette prière est un exemple de ce brassage liturgique qu'il y a dans l'église maronite, parce que son origine est jacobite. Elle vient de chez les Syriaques orthodoxes. Néanmoins, elle fut adoptée par les Maronites au XVIe siècle et ils l'ont priée pendant plusieurs siècles. Aujourd'hui, on a voulu la mettre de côté à cause de ses origines. Ça se discute. Néanmoins, on y trouve vraiment cet esprit syriaque, cet esprit sémitique, cet esprit oriental et bien sûr cette rencontre entre toutes ces églises qui ont un tronc commun, qui est une grande richesse pour eux et qui est peut-être aussi une injonction œcuménique pour se rappeler qu'elles viennent du même contexte et qu'elles sont appelées à l'unité.
Nous sommes ce matin dans Chrétien d'Orient avec Antoine Fleffel pour évoquer le Liban par la prière maronite. Antoine, vous disiez dans cette introduction que ce livre était...
C'est un roman d'amour.
Roman d'amour, voilà, oui. Vous le dites si bien. Et cette déclaration d'amour, certainement, était l'ouvrage le plus personnel que vous aviez écrit. Que signifie pour vous la prière ?
Il est très personnel car en tant qu'universitaire, j'essaie d'être le plus rigoureux possible quant à la méthode, en philosophie, en théologie, en géopolitique. Ça n'empêche pas d'avoir mes propres opinions que j'exprime toujours, mais il y a une certaine froideur ou distance parfois. Dans ce livre de prière, je n'ai pas pris beaucoup de distance. J'ai bien sûr respecté la méthode scientifique dans ma recherche et dans ma rédaction, mais je n'ai pas pris beaucoup de distance car je me suis senti concerné par chacune de ces prières. Il est très personnel parce qu'à la différence d'autres ouvrages, ce livre, lorsque je l'ai rédigé, je l'ai prié aussi. J'ai été très touché. J'ai revécu d'une certaine manière toute l'histoire de mon peuple et j'ai bien vu que ces prières couvrent 12 siècles. La plus ancienne prière que j'ai trouvée, elle date du 8e siècle. Cette prière me rappelle que ce que je vis maintenant est une énième version de malheur mais aussi d'espérance, de faille mais aussi de gloire. Donc une énième version que je suis en train de vivre. J'ai eu l'impression de rencontrer mes ancêtres, j'ai eu l'impression d'échanger avec eux, j'ai eu l'impression d'être dans la montagne libanaise, j'ai senti cette prière dans ma chair. Et ce livre qui au début pour moi était un livre très simple à rédiger et qui s'est avéré ne pas l'être, m'a rappelé qui je suis et qui j'étais. Il m'a donné un souffle nouveau et je suis très ravi de l'avoir écrit et j'espère que ceux qui le liront pourront en tirer des messages personnels.
Vous croyez à la force de la prière ?
Bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, on essaye de puiser une force intérieure dans beaucoup de choses. La méditation transcendantale, le yoga, la contemplation de la nature. Ça peut être très bien pour les personnes qui y croient. Mais je crois qu'on peut aussi puiser beaucoup de force dans la prière. Car la prière nous ramène à nous-mêmes. Nous rappelle notre histoire, nous positionne vis-à-vis de ce monde dans une attitude qui est une attitude d'amour, qui est une attitude de pardon, qui est une attitude de repentir, et qui est surtout une attitude d'espoir. La prière maronite, même si elle exprime beaucoup de persécutions et de malheurs, est traversée par l'espérance du début jusqu'à la fin.
Antoine Fleffel, nous allons aborder un autre point maintenant dans notre conversation du dimanche matin, c'est la création d'un institut, Institut Chrétien d'Orient. Alors il faut véritablement en parler et bien en parler autour de nous. C'est une initiative que vous avez prise, je crois, avec d'autres universitaires et érudits qui sont intéressés par l'enseignement. Voilà, de partager leur savoir sur les communautés d'Orient. Les premiers cours vont commencer dans les jours qui viennent. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et inviter nos auditeurs parisien ou en région parisienne. Voilà, parce que les cours auront lieu rue du Regard, près de la rue de Rennes, voilà, au pied de la tour Montparnasse presque. Voilà, pouvez-vous nous en dire quelques mots pour présenter ces activités et peut-être une programmation ?
L'idée de ce projet est ancienne en moi, mais elle s'est concrétisée il y a un an et demi, lorsque j'ai décidé de quitter l'Université catholique de Lille, où j'étais professeur pendant 7 ans, afin de concrétiser ce projet et de créer cet institut. Il a fallu quelques mois, bien sûr, pour le travailler, pour aller parler avec les partenaires, et ce projet a vu le jour au mois de juin, et les cours commencent le 1er octobre, donc à 13 rue du Regard. Ce projet a obtenu le soutien de l'Œuvre d'Orient, dont je suis membre, et il a obtenu le soutien et donc la promesse de collaboration de plusieurs universités. L'institution qui est la plus proche de nous, c'est l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, où je suis désormais professeur affilié, mais nous avons déjà des accords ou un échange assez poussé avec d'autres institutions. L'accord, c'est avec l'Université catholique de Lyon. Et les échanges très sérieux que nous avons sont avec l'Institut catholique de Paris, avec l'Université catholique de Lviv en Ukraine, et avec beaucoup d'autres institutions avec qui je suis en échange. Et autour de l'Institut, j'ai un grand réseau de professeurs qui nous soutiennent, qui sont dans plus d'une dizaine de pays, États-Unis, Russie, Canada, Suisse, Belgique, Ukraine, Liban, Égypte.
J'ai l'impression, moi, ce qui me plaît beaucoup dans la présentation que j'ai vue sur votre site internet, sur votre page qui est qui présente bien vos activités, Antoine Fleifel, c'est que il est ouvert à tout le monde, il est ouvert à tout public. Donc c'est peut-être un vide que vous comblez finalement, parce qu'on ne cesse de dire aux gens de se renseigner, de s'informer, de se cultiver sur la question des chrétiens d'Orient. C'est souvent moi-même ce que je réponds quand les personnes me demandent quoi faire pour les chrétiens d'Orient. C'est d'abord de les connaître. Est-ce que vous partagez cette même vision ?
Absolument. Cet institut est adressé à tout public, et même dans le tout public, il y a différents publics. Le grand public est composé de ces gens qui veulent s'informer, qui veulent savoir. L'institut est ouvert à eux, il n'est pas nécessaire d'avoir des diplômes pour s'inscrire. N'importe quelle personne intéressée peut venir chez nous, et nous adaptons notre pédagogie à cela. Dans ce public, il y en a certains qui diront « Ah, moi je veux un diplôme ». Il est possible de valider. Dans ce cas-là, deux cas de figure se présentent. Soit il n'y a pas un diplôme qui permet d'obtenir un autre diplôme universitaire. À ce moment-là, nous donnons un certificat. Soit il y a les diplômes universitaires idoine. À ce moment-là, nous donnerons un diplôme universitaire. Nous sommes en train de travailler sur la chose. Sinon, il y a un autre public aussi à qui cet institut s'adresse. C'est un public qui est politique, qui est diplomatique, qui est économique, car nous entendons aussi être un lieu d'influence. Nous faisons de la recherche et de l'enseignement avec les normes universitaires très sérieuses, et nous mettons entre les mains de ceux qui prennent les grandes décisions des informations pertinentes, en espérant qu'ils prendront les meilleures décisions pour nous dans une perspective citoyenne de dialogue et de paix. C'est ce que nous faisons. Pour cet effet aussi, nous ferons des formations, nous proposerons des universités d'été, nous proposerons des journées d'études, des colloques. Donc diverses choses seront proposées.
Nous parlions de langue tout à l'heure, l'arabe et le syriaque. Est-ce que vous envisagez peut-être de proposer des...
Alors permettez-moi juste de parler d'un troisième public. Il y a un troisième public aussi à qui nous nous adresserons. C'est le public des universitaires. Nous ferons tout pour avoir une réunion au moins par mois, où à chaque fois nous ferons la connaissance avec de nouveaux universitaires partout en France, afin que chacun puisse faire connaître sa recherche, afin que nous puissions monter des projets ensemble. Car aujourd'hui, il y a pas mal de chercheurs, parfois, sur les chrétiens d'Orient dans diverses universités, mais isolés, inconnus. Mon rêve, c'est de pouvoir créer cette plateforme et de leur permettre de se rencontrer et d'œuvrer ensemble.
Et sur la question des langues, donc nous parlions tout à l'heure de cette prière maronite traduite depuis l'arabe et le syriaque. Est-ce que vous envisagez aussi de vous orienter vers un enseignement ?
Notre politique, c'est de ne pas faire des doublons. Moi, je ne voudrais pas faire un doublon. Je ne veux faire de la concurrence avec aucune institution qui aujourd'hui donne des cours sur les chrétiens d'Orient, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique. Donc, si quelqu'un veut étudier le syriaque, je crois qu'il y a l'ANGZO, il y a l'Institut catholique de Paris. Je dirais à ces gens-là, allez étudier là-bas, ils font du très bon travail. Moi, je propose dans mon institut des cours originaux que personne d'autre ou presque n'enseigne. Pour vous donner qu'un seul exemple, par exemple des cours sur les pères de l'Église, on peut en trouver partout, Centre Sèvres, Cateau de Paris, EPHE, etc. Par exemple, nous donnons un cours dans notre institut sur la patrologie orientale. Nous parlons des pères orientaux de l'Église, c'est-à-dire les pères syriaques, les pères éthiopiens, les pères arméniens, les pères qui ont écrit en langue arabe. Il y a une quantité qui autour desquels il faut encore faire des recherches. Donc moi, je propose des cours originaux ou un autre cours, la pensée chrétienne au Liban, la pensée théologique au XXe siècle. Cela aussi ne se trouve nulle part ailleurs. Cet institut est complémentaire et c'est à ce titre aussi qu'il est appelé à collaborer avec les différentes institutions car ensemble, nous ferons un très beau travail.
Antoine Fleffel, d'une manière plus générale, est-ce que vous pensez que les communautés chrétiennes d'Orient souffrent d'ignorance, qu'on les ignore ?
Il y a une double ignorance qui existe. Premièrement, certes, en dehors du cercle, bien sûr, des spécialistes et des sympathisants, on connaît peu de choses sur les chrétiens d'Orient. Déjà, le premier péché qu'on fait sur ce plan, c'est de le réduire à l'encens, aux icônes et à l'art sacré. Alors que quand on dit chrétien d'Orient, on parle d'une richesse culturelle, d'une richesse civilisationnelle, d'une anthropologie, d'une politique, d'un mouvement littéraire. L'Institut faudrait mettre en valeur tous ces aspects qui touchent aux chrétiens d'Orient. L'autre ignorance, elle est propre aussi aux communautés chrétiennes d'Orient, parce qu'elles-mêmes, parfois, très souvent d'ailleurs, non seulement ignorent les autres églises chrétiennes orientales, mais ignorent leur église même, leur église propre. Il y a plusieurs vocations qui existent dans cet institut sur le plan de faire connaître les chrétiens d'Orient.
Antoine Fleffel, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous en ce dimanche matin. Je rappelle le titre de votre livre qui sort bientôt aux éditions Salvator, La prière maronite, et le nom de cet institut chrétien d'Orient dont nous mettrons les références, bien entendu, sur les pages de notre émission sur le site de France Culture. Je remercie Marie Lepeintre, François Connac et Claire Poinsignon pour la réalisation de la technique de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Bon dimanche.